est l'heure de notre rendez-vous avec Amnesty International, Régis Coulange, et cette émission donc sur les droits humains pour la dignité, comme chaque premier lundi du mois. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Pour cette émission, nous allons parler de la Chine. On va parler de bonnes nouvelles grâce à nos actions urgentes. Et puis on parlera de réchauffement climatique et des activités du groupe dinois. Voilà, alors pourquoi parler de manifestations en Chine? C'est parce que hier, le 4 juin, nous fêtions, c'est un mot un peu déplacé, c'était l'anniversaire de la répression de la place Tiananmen, qui a eu lieu le 4 juin 1989, ça fait 34 ans, voilà, où la Chine a réprimé dans le sang le mouvement de protestation en faveur de la démocratie. Après cet événement tragique et en dépit d'un environnement de plus en plus répressif, les mouvements de contestation se sont poursuivis. Retour sur ces grandes manifestations en Chine depuis Tiananmen. C'est vrai qu'à Tiananmen, les troupes chinoises ont abattu des centaines, voire des milliers de personnes, on n'a pas les chiffres exacts, qui étaient descendues dans les rues sur ou autour de la place Tiananmen de Pékin pour réclamer des réformes politiques. C'est une tâche indélébile sur l'histoire de la Chine, qui veut ne plus en parler, bien sûr. Mais quand même, depuis, il y a eu des manifestations. En 1999, vous avez une manifestation de Falun Gong à Pékin, où plus de 10 000 adeptes de ce mouvement spirituel populaire en Chine dans les années 90 ont manifesté silencieusement à Pékin contre le harcèlement exercé par le gouvernement à l'encontre de leurs membres. En réaction aux manifestations, le gouvernement chinois interdit le groupe et lance une campagne d'intimidation et de persécution sous la direction d'une organisation spéciale appelée le Bureau 610. Depuis l'interdiction du mouvement, des dizaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont été détenus arbitrairement et nombre d'entre eux ont été torturés. En 2011, il y a eu des manifestations pro-démocratie de la révolution de Jasmin. Les manifestations du printemps arabe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont trouvé un écho en Chine. Des appels à manifester ont été relayés en ligne. Les médias affiliés à l'État ont qualifié les rassemblements et les manifestations de perturbations de l'ordre public, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Plus d'une centaine de militants, souvent actifs sur Twitter et sur des blogs, ont été arrêtés, placés sous surveillance ou assignés à résidence de manière illégale. Certains sont toujours portés disparus. Et puis de 2012 à 2015, vous avez eu des mouvements féministes. En 2012, un nouveau mouvement féministe est apparu, connu pour ses actions de rue et ses manifestations pour les droits des femmes. Depuis, le gouvernement chinois a enclenché une répression systématique du mouvement féministe. Les méthodes utilisées comprennent des campagnes de dénigrement et le harcèlement des militantes, la fermeture des groupes sur le genre dans les universités et la censure des discussions en ligne sur les questions liées au genre et aux droits des femmes. En 2015, 5 personnes membres de ce mouvement ont été arrêtées et détenues. Aujourd'hui, les militantes féministes chinoises poursuivent leur travail en s'organisant hors ligne et en militant à l'étranger. De 2012 à 2020, il y a eu des mouvements de nouveaux citoyens. Le mouvement des nouveaux citoyens, c'est un réseau informel d'activistes chinois fondé par le juriste Xu Ziyong en 2012 pour dénoncer la corruption. Des dizaines d'avocats et de militants associés aux raisons ont été pris pour cible après avoir participé à une réunion informelle organisée à Xiamen en décembre 2019. Le groupe dont faisait partie Xu Ziyong s'était réuni pour discuter de la situation de la société civile et des affaires courantes en Chine. Plus tard dans le mois, la police a convoqué ou placé en détention les participants à la réunion de Xiamen. Xu et l'avocat des droits humains Ding Jiaxi ont été condamnés respectivement à 14 et 12 ans de prison en avril 2023. En 2022, il y a eu en novembre 2022, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des manifestations dans les universités et les villes de Chine, notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan. Les manifestants pacifiques ont commémoré les victimes de l'incendie d'Urumqi et ont appelé à l'assouplissement des mesures de confinement. Beaucoup ont également demandé la fin de la censure et certains ont appelé à la démission du président Xi. L'ampleur de ces manifestations était inédite et inattendue, étant donné le niveau de répression des manifestations en Chine, comme je viens de vous le dire. Or, le mouvement de novembre 2022 a montré le courage des manifestantes et manifestants chinois. Des milliers de personnes ont brandi des feuilles de papier blanc, scandé des slogans et imaginé toutes sortes d'actions de protestation créative. Et le 4 juin 2023, c'est-à-dire hier, interdiction des commémorations de Tiananmen. La commémoration publique ou la simple mention de la répression de Tiananmen est toujours interdite en Chine. À Hong Kong, la veillée annuelle en hommage aux victimes de la répression avait lieu chaque année depuis 1989. Des centaines de milliers d'habitants y participaient, mais depuis 2020, elle est interdite en raison de l'intensification de la répression après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Certains des organisateurs de la veillée, comme l'avocat des droits humains Cho Hang-tung, sont encore détenus. Malgré les méthodes de répression, les habitants de Hong Kong, de la Chine continentale et du monde entier continuent de lutter pour le droit de manifester en Chine. Ce qui est vraiment remarquable. On va écouter une chanson sur ce thème, sur la place Tiananmen, de Yves Lecordier. Sur la place Tiananmen.
Le mois de mai ne donnait pas de fleurs. On respirait le silence et la peur. Des jeunes gens ont sillonné la ville en espérant un été plus fertile, en espérant un été plus fertile. Ils sont arrivés sur la place. Ils se sont aimés, ils ont trébuché sur la place, ils sont tombés, ils sont tombés, ils ont dansé devant les mitrailleurs, la liberté faisait chanter les cœurs. Les mitrailleurs n'ont pas aimé leur jeu. Et vers 3 heures, ils ont ouvert le feu. Oui, vers 3 heures, ils ont ouvert le feu. Ils sont arrivés sur la place. Ils se sont aimés, ils ont trébuché sur la place, ils sont tombés, ils sont tombés. Lorsque les corps ont à peine 20 ans, est-ce que les morts seraient moins importants? De Chine et de partout, chaque printemps me parlera de vous, chaque printemps me parlera de vous. Ils sont arrivés sur la place, ils se sont aimés, ils ont trébuché sur la place, ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont arrivés sur la place, ils se sont aimés, ils ont trébuché sur la place. Ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont tombés.
Voilà, maintenant, je vais vous parler des actions urgentes. Alors, cela fait 50 ans que nous utilisons ce type d'action. Et je vous avais parlé à la dernière émission, justement, de la première action urgente qui avait eu lieu chez Amnesty International. Et là, ce coup-ci, dans cette émission, je vais vous parler des bonnes nouvelles que cela entraîne, car les actions urgentes sont efficaces et souvent nous obtenons de bons résultats. Donc depuis 50 ans, nous continuons à faire ces actions urgentes. Hein. Les membres du groupe le savent puisque c'est assez fréquent. Voilà, donc je vais vous parler de 10 cas d'actions urgentes qui ont été efficaces. En Égypte, d'abord, elle s'appelle Solafa Magdi, elle a 34 ans. Elle aura passé 500 jours en prison uniquement pour avoir fait son travail de journaliste. Dans son pays, Solafa avait couvert de près la révolution. Après 2011, dans ses reportages, elle dressait l'état des lieux de la transition politique, des changements sociaux en Égypte et dénonçait les violations des droits humains. Pour les autorités égyptiennes, elle diffusait de fausses informations. Alors, leur réponse, la prison. Le 14 avril 2021, elle a enfin été libérée et a pu retrouver son fils de 8 ans et son mari. Derrière les barreaux, Solafa a vécu un calvaire. Son état de santé se dégradait, devenait chaque jour plus inquiétant. Au vu de la gravité de la situation, il fallait agir vite, par un moyen d'action rapide. Nous avons donc enclenché une action urgente pour faire pression sur les autorités égyptiennes et demander sa libération. Plus de 6000 mails ont été envoyés aux autorités grâce à cette action. Voici la force de la mobilisation. Le 14 avril, nos équipes ont appris la bonne nouvelle. Solafa est enfin libre. Grande joie et soulagement immense. Ne doutez jamais de l'impact de vos actions. Elle nous a dit « Je voudrais leur dire à Amnesty que je leur dois beaucoup. Ils étaient à notre côté quand on avait vraiment besoin d'eux. » En Turquie maintenant, 18 étudiants et leurs professeurs risquaient jusqu'à 3 ans de prison pour avoir célébré une marche des fiertés. Le 8 octobre 2021, ils ont été acquittés. Solidarité LGBTI+ était le nom de leur collectif, un groupe qui n'a pas plu au recteur de leur université qui a entamé un travail de sabotage de l'association étudiante. En signe de protestation, les étudiants ont organisé un sitting, violemment dispersé par la police. C'est à partir de là que le harcèlement judiciaire a commencé et que leur procès s'est ouvert. Afin de les soutenir et de demander leur relax, nous avons déclenché une action urgente. Notre cible, le ministre de la Justice turque. En quelques jours, rien qu'en France, plus de 5000 mails ont été envoyés. En seulement quelques jours. En Chine maintenant, il s'appelle Wang Kangzhang. Le 27 avril 2020, il a enfin retrouvé sa femme et son fils, après 4 ans et demi passés derrière les barreaux. Ce célèbre avocat avait été arrêté lors d'une vague de répression en 2015 qui visait des centaines de défenseurs des droits humains. Depuis son arrestation, nous avons fait campagne pour sa libération. Nous avons enclenché une action urgente pour interpeller massivement les autorités chinoises. Notre cible, le président Xi Jinping. Des milliers de personnes se sont mobilisées. Son épouse nous a écrit... Wang Kangzhang est enfin de retour à la maison. Nous n'aurions jamais obtenu sa libération sans votre aide. Nous serons éternellement reconnaissants pour votre soutien. Au Bangladesh, des traits rieurs, un regard combatif, voici Shahidou Alam. Ce photographe et fervent défenseur des droits humains au Bangladesh a été libéré le 20 novembre 2018 après avoir passé plus de 100 jours en prison. Il avait été emprisonné pour avoir critiqué la répression du gouvernement contre des manifestations étudiantes. Au moment de son arrestation, nous avons immédiatement activé notre réseau d'action urgente. Notre première cible était le ministre de l'Intérieur bangladais. Notre mobilisation a participé à la pression internationale exercée sur les autorités pour exiger sa libération. Lorsque nous sommes nombreux et combatifs, les autorités ne restent pas silencieuses. Il nous a dit « C'est incroyable de pouvoir établir un lien avec vous tous. Les membres d'Amnesty ont joué un rôle si important et décisif en exerçant la pression qui a mené à ma libération. Merci. » Le cinquième cas, au Paraguay, Bernarda Pessoa protège depuis plus de 28 ans les terres de sa communauté, les COMS, contre les entreprises privées. Ces dernières empiètent sur les terres autochtones pour y mener des projets avec un impact lourd sur l'environnement. Parce que Bernarda s'opposait à une plantation d'eucalyptus, elle a été attaquée par un groupe de 9 personnes. Pour exiger sa protection par le gouvernement du Paraguay, nous avons déclenché une mission d'action urgente. Des milliers de personnes ont agi en France et à l'international. Résultat, les autorités ont ouvert une enquête et lui ont accordé leur protection. Et elle nous a dit « Merci Amnesty International pour le soutien apporté en lançant cette action urgente. Nous continuerons de nous battre pour résister face à cette entreprise qui veut s'emparer de nos terres. » On va maintenant écouter une chanteuse algérienne qui a une voix magnifique, Souad Massi, dans sa chanson « Ouria ».
J'aurais aimé te chanter d'éternelles histoires, des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires, et sur le bord des lacs où dorment des songes brûlés, j'aurais posé sur ton front des brasiers. J'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes, des oiseaux enflammés déchirant les nuits blêmes, et sur le toit des montagnes quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh, oh yeah. Il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour.
Voilà, voici maintenant les 5 bonnes nouvelles, autre cas. En Birmanie, Peng Fiomin, 23 ans, a été libéré le 19 avril 2021, après avoir passé plus de 2 ans derrière les barreaux. Il avait été condamné à une peine de 6 ans de prison pour un spectacle ridiculisant l'armée. Face à cette parodie de justice, nous avons déclenché une action urgente. Vous avez été des milliers à interpeller les autorités birmanes. Aujourd'hui, Si Peng est enfin libre et près de sa famille, c'est en partie grâce à cette mobilisation. Il nous a dit « Nous sommes certes en prison, mais cela ne nous empêchera pas d'exprimer nos opinions. » En France, Frédéric Vuillaume, qui est un militant syndicaliste de 49 ans, a été relaxé par le tribunal de Dijon le 20 mai 2021. Il était accusé du délit d'attroupement pour sa participation à une manifestation. En amont de son procès, nous avons déclenché une action urgente pour le soutenir et exiger la fin des poursuites engagées contre lui. Rien qu'en France, plus de 7500 personnes ont agi via notre action urgente en interpellant par e-mail le procureur de Dijon. Il nous a dit « Je remercie mes nombreux soutiens et les militants d'Amnesty International, notamment pour tous les mails envoyés au procureur. C'est grâce à cette mobilisation, cette solidarité et cette détermination des militants et des associations que nos libertés sont protégées. » Au Myanmar, qui est aussi l'autre nom de la Birmanie, Wallon et Kya So-ho, deux journalistes de l'agence Reuters, ont été libérés de prison le 7 mai 2019. Ils auront passé plus de 500 jours loin de leur famille pour avoir enquêté sur le sort des Rohingyas. Ils avaient été condamnés à 7 ans d'emprisonnement, mais ont finalement bénéficié d'une grâce présidentielle. Là aussi, la mobilisation a payé. En déclenchant une action urgente pour Wa et Kya, nous avons fait entendre massivement nos voix à l'ancien président du Myanmar et à son ministre de l'Intérieur. La pression internationale a fait réagir les autorités. Wallon nous a dit « Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés en prison et toutes les personnes du monde entier qui ont demandé notre libération. J'ai hâte de retourner dans la salle de rédaction. » Au Honduras, une jeune Hondurienne transgenre de 24 ans a été libérée le 14 juillet 2020, après avoir passé 3 ans dans un centre de détention pour migrants aux États-Unis. Kelly a fui le Honduras quand elle avait 13 ans en raison des violences qu'elle subissait à cause de son identité transgenre. Arrivée aux États-Unis en 2017, les autorités l'ont détenue. Elle a vécu dans de mauvaises conditions de détention et sa santé physique et mentale a été gravement affectée. La situation de Kelly nous a vivement préoccupés. Rapidement, nous nous sommes mobilisés pour créer une pression internationale sur les autorités des États-Unis. Nous nous sommes adressés directement au superviseur des services d'immigration pour lui demander de mettre fin à la détention de Kelly. Elle nous a dit « Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté, toute la force, tout votre combat contre les services de l'immigration. C'est grâce aux efforts phénoménaux de chacun d'entre vous qu'ils ont enfin accepté de me libérer. Merci infiniment. Sans votre aide, je n'y serais jamais parvenu. » Au Vietnam, c'est un immense soulagement. Ho Du He ne risque plus d'être exécuté. Le parquet populaire suprême a annulé sa peine de mort en décembre 2019. Les autorités l'avaient déclaré coupable de vol et de meurtre après l'avoir torturé pour qu'il signe des aveux. C'est avec effroi que nous avions appris qu'il risquait d'être exécuté. Nous avions rapidement mis en place une action urgente afin d'empêcher son exécution. Médias indépendants et sociétés civiles du Vietnam soulignent que nous avons joué un rôle essentiel pour empêcher l'exécution de Ho Du He. En ciblant massivement le chef de l'État vietnamien et le ministre de la Sécurité publique, nous avons maintenu une pression à grande échelle qui a contribué à sauver Ho Du He. Grâce à vous. La mère de Ho Du He nous a dit « Merci d'avoir sauvé la vie de mon fils. Aucun mot ne pourrait décrire ma sincère gratitude envers vous tous. » Voilà, ces 10 bonnes nouvelles montrent que grâce à la mobilisation, nous pouvons changer le cours des choses et aboutir à des changements très positifs sur la vie des personnes en danger. Le combat continue. Vous pouvez rejoindre notre réseau d'action urgente. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site amnesty.fr et de dire que vous voulez participer à ce réseau. Donc, si vous nous rejoignez, vous recevrez une à deux fois par mois une alerte par SMS pour venir en aide à une personne exposée à une situation grave. Donc, vous pourrez agir à nos côtés dans ce type d'action qui est l'action urgente. Voilà, on va écouter maintenant Anne Sylvestre dans sa chanson « 12 maisons ».
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Voilà une belle métaphore pour parler des destructions qu'entraîne le viol. On va parler maintenant de réchauffement climatique et notamment de la société Total Energy qui, à nouveau, est poursuivie en justice. La pression monte contre cette société. Mercredi 31 mai au matin, s'est tenue la première audience de procédure au tribunal judiciaire de Paris dans le contentieux climatique engagé par des associations et collectivités territoriales contre Total Energy. En tant qu'intervenant volontaire accessoire, nous soutenons et appuyons cette coalition pour faire valoir la défense des droits humains et de l'environnement. Après son passage devant la justice pour défendre son méga-projet pétrolier Tilenga et Eacop en Ouganda et en Tanzanie, nous en avions parlé lors d'une émission, c'est la deuxième fois que Total Energy est entendue sur une affaire liée au climat. Survenant quelques jours seulement après la forte mobilisation contre l'Assemblée générale de Total Energy, Cette audience s'inscrit dans la première action en justice française dont l'objectif est de rehausser les ambitions climatiques d'une entreprise. Lancée début 2020, la procédure a été retardée par la multinationale énergétique qui contestait la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Durant l'audience, l'entreprise a développé ses nombreux moyens de défense pour contester la recevabilité de l'action judiciaire, y compris notre rôle d'intervenant volontaire. Au regard de l'urgence climatique et des engagements de la France sur une trajectoire à 1,5 degré, la coalition a demandé au juge de contraindre Total Énergie à adopter des mesures provisoires telles que la suspension de ses nouveaux projets pétro-gaziers et la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités mondiales. Selon les associations et collectivités, Total Énergie est responsable de 0,8 à 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et prévoit de continuer à investir d'ici 2030 à 70 % dans les énergies fossiles. Le groupe a reconnu que l'usage de ces produits dans le monde génère 0,8 % des émissions mondiales. Les experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont unanimes. Dans leur rapport, ils estiment que 420 millions de personnes pourraient échapper à une exposition à des vagues de chaleur extrêmes si la hausse de la température moyenne de la planète n'excédait pas le seuil critique de 1,5 degré au lieu de 2 degrés. Le nombre de personnes exposées au stress hydrique serait également réduit de 50%. Le changement climatique impacte et continuera d'impacter les conditions de vie sur Terre. Ne pas s'aligner sur la trajectoire à 1,5 degré, conformément à l'accord de Paris, et continuer d'investir dans des projets pétro-gaziers sont autant d'éléments qui représentent une menace pour le respect et la protection des droits humains. Le changement climatique constitue une crise des droits humains sans précédent, dans laquelle nous nous engageons à Amnesty International fortement. Agnès Callamard, notre secrétaire générale, dit en effet « Les effets dramatiques du changement climatique mettent en évidence, de façon affreusement claire, le fait qu'un environnement sain est indispensable pour l'exercice de tous nos droits. » Votée en 2017, la loi sur le devoir de vigilance en France correspond à l'obligation faite aux entreprises multinationales de prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement causés par leur activité. Cette loi, pour laquelle Amnesty International France a beaucoup œuvré, est la première de ce genre dans le monde et marque une avancée historique vers le respect des droits humains et environnementaux par les entreprises multinationales. La loi permet d'obliger les entreprises à prévenir et réparer les violations des droits humains et les dommages environnementaux engendrés par leur activité et par les activités de leurs filiales, de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Total Énergie est en première ligne en tant que major carbone et grand producteur d'énergie et émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise doit respecter ses obligations au titre du devoir de vigilance et de la prévention des préjudices écologiques. C'est la raison pour laquelle nous soutenons l'action de ces associations et collectivités. Voilà, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet prochain. Nous allons maintenant écouter le caribou volant. Alors, le caribou volant, ce sont deux voix, Johan et Ninon, qui s'harmonisent sur des airs de guitare portés par des rythmes subtils et entraînants, d'un batteur et d'un bassiste aux influences jazz, trip-hop et musique du monde. Violon, mandoline, clavier et flûte s'invitent à la fête pour offrir un répertoire oscillant entre ballades solaires et chansons jazz. Une mise en scène épurée, tout se passe dans la musique, les regards et les mots. Le voyage musical heureux, drôle et vivant, au cours duquel le caribou volant raconte sa vie de bohème et continue de questionner le monde. Nous écoutons donc leur chanson, Chanson climatique 2.0. Thank you.
Depuis la maternelle, j'entends parler d'effets de serre. La maîtresse nous disait, pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
Ils sont sûrement en overdose de caféine. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Sur les bancs du lycée, on a parlé de la croissance. Mon prof déco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Thèse en vitesse, synthèse, la guerre ou la consommation. Chômeur, consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Et Donald qui nous tweet, le réchauffement n'existe pas.
Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète.
Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux zoos.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Pardon. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu des activités du groupe. Nous avons tenu un stand à l'école des Beaux-Arts le mardi 30 mai et le jeudi 1er juin dernier. Voilà, parce qu'on fait un appel aux artistes locaux en soutien à notre prisonnier d'opinion, Luis Manuel Otero Alcantara. Donc c'est une autre forme d'action, hein. Vous avez les actions urgentes dont je vous ai parlé. Et puis vous avez des actions plus longues dans le temps, en soutien à des défenseurs des droits humains justement emprisonnés. Et notre groupe a pris en charge, avec d'autres groupes en France et dans le monde, Luis Manuel Otero Alcantara, qui est un artiste cubain et qui a été condamné à 5 ans de prison juste pour s'être opposé à un décret du gouvernement, un décret de censure qui dit que toute œuvre, quelle qu'elle soit, doit d'abord avoir une autorisation pour être réalisée. Voilà, donc on prévoit de préparer une exposition qui se tiendra à la médiathèque en décembre, à la médiathèque de Digne, avec des œuvres réalisées par des artistes locaux sur le thème de la liberté d'expression, liberté de manifestation. Voilà, et donc on a déjà quelques œuvres. On a beaucoup d'artistes qui nous ont promis une œuvre aussi. Et je pense qu'on aura une très belle exposition qui nous permettra de parler de son cas et d'obtenir enfin sa libération. Voilà, sinon on va participer à la fête de la solidarité qui est organisée notamment par RESF et qui aura lieu le mercredi 5 juillet. Je crois que c'est à partir de 17h. Voilà, donc avec toutes les associations de solidarité qui existent sur le bassin dinois. Le mardi 20 juin à 18h30 à Cine-Étoile, nous participerons également à un ciné-débat autour du film Thilo Kotto, ciné-débat organisé par le réseau Éducation sans frontières et auquel nous sommes participants. Alors, Thilo Kotto, c'est un Camancé, Yankuba Badji. Et pour lui, le voyage vers l'Europe s'arrête brutalement dans le sud tunisien, après avoir tenté de traverser la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Un an et demi sur les routes clandestines, où il a failli maintes fois perdre la vie. Thilo Kotto, c'est l'histoire d'un homme brûlé dans sa chair et son âme par la traversée d'un enfer qu'il sublimera par la peinture. Télérama parle de ce film et de sa peinture, des œuvres pleines de talent et de douleur, d'une singularité qui rappelle celle des destins arrachés par ce film délicat à l'indifférenciation des statistiques migratoires. Voilà, on avait déjà passé le Chant des Vivants, où on voyait ces migrants qui étaient passés par la Libye et qui étaient très marqués par ce qu'ils avaient vécu d'horreur, et qui essayaient de se reconstruire par l'art, notamment la danse et le chant. Et là, dans ce film, Thilo Kotto, vous verrez cette personne qui n'est pas arrivée en Europe et qui alerte les jeunes Africains en disant « ce n'est pas le rêve que vous croyez et la Libye est pire que l'enfer ». C'est ce que nous disaient d'ailleurs les jeunes dans le Chant des Vivants. C'est pire que l'enfer parce qu'on ne sait pas le mal qu'on a fait pour être traité de cette façon. Donc voilà, je vous conseille vivement de venir au ciné-débat. Ça aura lieu le mardi 20 juin à 18h30 au ciné-étoile de Digne-les-Bains en présence de RESF et Amnesty International. Voilà, sinon, le 24 et 25 juin, nous allons, un membre du groupe va participer à l'AG d'Amnesty France, une AG qui réunit les représentants de tous les groupes de France. Ça se tiendra à Pau et nous allons bien sûr avoir des témoignages d'anciens prisonniers. Nous avons à discuter de résolutions, dont trois résolutions portent justement sur le climat. Le problème du climat, du réchauffement climatique, qui impacte fortement les droits humains. Et puis le samedi 1er juillet, il y a une marche des fiertés à 14h à Marseille, comme chaque année. Et Amnesty International sera présente à cette marche des fiertés. Voilà, il me reste un petit peu de temps. Alors je vais vous parler d'une bourse que nous avons créée qui s'appelle la bourse Gaëtan Motto. Gaëtan Motto était un chercheur pour l'Afrique de l'Ouest qui nous a malheureusement quittés de façon dramatique il y a 5 ans, le 25 mai 2018. Aujourd'hui, nous annonçons les noms des trois lauréats de cette bourse créée en son honneur. Cette année, la bourse a été attribuée à Blaise Monduka, Rita Nelumta Jo Onta et Christelle Nang Atsena. Ces trois lauréats de la bourse Gaëtan Motto vont pouvoir participer à la 52e session d'été de l'Institut international des droits de l'homme, Fondation René Cassin, à Strasbourg, du 26 juin au 21 juillet 2023. L'école d'été, enseignée par les meilleurs spécialistes du domaine, se concentre sur le droit international comparé des droits humains, le droit pénal international et le droit humanitaire. Voilà, le travail de Gaëtan Motto a eu un impact significatif sur les droits humains. Ses recherches sont concentrées sur l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'était un chercheur spécialisé dans cette région du monde, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, en Niger, au Sénégal, Sierra Leone, Togo. Il a contribué à la libération de prisonniers d'opinion, à l'obtention de justice et de réparation pour de nombreuses victimes. Son travail a aidé de nombreuses communautés affectées à se remettre des violations des droits humains et demander justice. Voilà, donc à travers cette bourse créée en 2020, nous souhaitons encourager des jeunes militants et leaders. Notre objectif, partager les connaissances, échanger, collaborer avec eux, afin de leur permettre de donner plus de force à leur action. C'est pour ça que ils ont gagné une session de formation aux droits humains à Strasbourg. Pour qu'ils et elles participent pleinement au mouvement mondial de défense des droits humains. Donc les trois lauréats cette année, il y a Blaise Manduka qui est un avocat au barreau de Tshopo en République démocratique du Congo. Il a été un activiste très engagé dans les mouvements citoyens de base, Filimbi et Lucha. On en avait parlé dans cette antenne de ces groupes de jeunes citoyens qui demandent la démocratie. Et en raison de ses activités de défenseur des droits de l'homme dans la ville de Kisangani, il a été arrêté à plusieurs reprises. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, il soutient les défenseurs des droits de l'homme qui font face à des arrestations et des procès. Rita Nelumta Johontan, de nationalité tchadienne, est titulaire d'une maîtrise en droit, membre de la Ligue tchadienne des droits de la femme. Rita est particulièrement active dans la sensibilisation des communautés aux droits des femmes et des enfants. Et la troisième lauréate de ce prix, Christelle Nang Atsena, de nationalité camerounaise, est avocate au barreau de Cameroun, membre actif du réseau international des femmes juristes et d'Avocats sans frontières Cameroun. Christelle apporte un soutien juridique aux femmes victimes de violences sexuelles au Cameroun. Voilà les trois lauréats cette année. On va maintenant, pour terminer cette émission, écouter à nouveau le Caribou volant dans une autre de ses chansons, « Quand les arbres chanteront de nouveau ».
Lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon, lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon,
quand les arbres chanteront de nouveau, lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon, j'apprendrai à parler la langue des poissons pour plonger bien heureuse dans l'océan des mots.
Lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon,
il faudra réparer notre petite terre souffrante, semer des graines de vie parmi la mauvaise herbe, et tout comme Cyrano réinventer le verbe, partager le soleil et les étoiles filantes.
Quand les arbres chanteront de nouveau, quand les arbres chanteront de nouveau, les arbres chanteront de nouveau.
Quand les rêves chuchoteront un nouveau savoir-être, et qu'un espoir sincère nous fera respirer, lorsque nous cesserons de tout coloniser, l'esclave n'aura peut-être enfin plus aucun maître. Il nous faudra guérir des blessures encore vives, pardonner génocide et crimes militaires, bâtir avec sagesse un autre imaginaire, protéger ces ruisseaux que les enfants poursuivent.
Lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon, lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon.
Et le temps a coulé, l'encre a séché, le carrousel est éteint, le manège désenchanté. Est-ce que c'est ton enfant qui fabrique nos chaussures? Il faut être productif, compétitif. C'est un long requiem, une guerre contre nous-mêmes. Le silence s'est moqué des tracas du fracas, abîmé par l'argent sale et poisseux. riches, les inégalités se creusent, et quelle justice dans tout ça? Les milliardaires véreux évitent presque toujours la prison quand les enfants de l'exil sont parqués dans des camps. L'injustice qui triomphe, c'est la faillite du progrès social. Les inégalités qui prospèrent, c'est chaque jour un peu plus le climat qu'on dérègle. Nous en sommes les témoins, bastonnés par des flics qui n'en peuvent plus d'être les boucliers qui protègent nos rois. La fin du monde en ligne de mire ou bien l'esquive de l'autruche. Sur nos regards bien vagues, le futur est absent. Alors, nous cherchons notre enfance dans le regard d'un môme.
Quand les arbres chanteront de nouveau, oh, et que derrière leurs branches nous peindrons l'horizon, nous inventerons ensemble une nouvelle conjugaison pour apprendre à parler la langue des oiseaux.
Quand l'humain chantera l'avenir,
lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon,
les déserts deviendront des forêts.
Lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon,
nos idéaux pousseront sans engrais.
Lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon,
il sera enfin temps de tout reconstruire.
Quand les arbres chanteront de nouveau, lorsque nous pourrons voir une ligne d'horizon.
On écoute une chanson de Martin Scorsese qui sera en concert à Volks le dimanche 11 juin à 18h30 avec toute son équipe de musiciens pour présenter son album De Passage, un nouvel album qui vient de paraître. Et puis elle sera aussi en concert un jour avant, le samedi à 20h30 à la commanderie de Lardier. Voilà Martin Scorsese, on écoute Rime souterraine.
Elles sont entrées en résistance de Chine, d'Iran ou bien de France. Écrire des rimes féminines puisque les voici interdites. Les poétesses, les secrétaires, les maraîchères et les ouvrières, les danseuses et les couturières, les musiciennes aventurières. Que l'on ne prononçait pas. À quoi servent-elles, disaient-ils? Elles sont muettes, elles n'existent pas. Elles sont arrivées bien charnelles, bien vivantes et bien rebelles. Ces femmes avec leur forte tête et leur puissance de suffragette. Des ateliers où l'on tissait du lien mutin, où l'on venait pour réparer ces mots privés de féminin. Quand furieux ils sont arrivés, c'est le silence qu'ils ont trouvé. Elles avaient pris le souterrain, tenant les lettres dans leurs mains.